France Culture, l'esprit d'ouverture.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Bertille Bourdon, mais aussi Margot Leridon et Rosalie Suc, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Élise Le. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Bonjour Marc Semo.
Bonjour.
Cette semaine, Marc, les membres de l'OTAN se réunissaient à Londres pour célébrer les 70 ans de l'organisation transatlantique, un anniversaire qui s'annonçait un peu morose, déjà jugé obsolète et trop coûteuse par Donald Trump. Emmanuel Macron en avait rajouté une couche juste avant la rencontre en la disant en état de mort cérébrale. Si la formule n'a pas été franchement au goût du président américain notamment, il est difficile de nier les dissensions internes au sein de l'organisation et l'urgence à remettre à plat ses missions afin de s'adapter à un contexte qui n'a évidemment plus rien à voir avec celui de la guerre froide. À l'issue du sommet, les 29 membres ont adopté une déclaration commune, réaffirmant leur solidarité et ouvrant la perspective d'évolution avec l'ouverture d'un groupe de réflexion prospective sur la stratégie de l'Alliance. Alors que peut-on en attendre? L'organisation parviendra-t-elle à s'adapter aux enjeux géopolitiques contemporains? Le discours de solidarité résistera-t-il à la divergence des intérêts de ses membres? Pour évoquer toutes ces questions, nous avons invité ce matin Guillaume Lascombe-Jarias. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, chercheur associé à l'Institut français des relations internationales, l'IFRI. À vos côtés, Cyril Brett. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également ce matin. Vous êtes maître de conférence à Sciences Po. Avant d'évoquer toutes ces questions autour de l'OTAN, la réforme ou la mort, c'est le titre qu'on a choisi ce matin pour notre sujet. Parlons d'abord notre retour de comme chaque vendredi en association avec le prix Albert Londres. La journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Cisjordanie, c'est Céline Ussato. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vous journaliste à l'Obs. Vous avez passé donc une semaine en Cisjordanie et à Jérusalem. Vous avez notamment signé un papier intitulé « Les oasis de la discorde » consacré à ces sources d'eau en territoire palestinien mais contrôlées par Israël. Des oasis qui sont le théâtre de tensions au niveau des populations locales bien sûr, mais aussi au niveau politique puisque c'est un point de désaccord notamment entre Benny Gantz et Benjamin Netanyahou, le premier ayant échoué à former un gouvernement mais espérant toujours y parvenir à l'issue de pourparlers avec le Likoud. Il va falloir se dépêcher parce que d'ici mercredi prochain, il faudra retourner aux urnes.
Oui.
Et puis le second étant suspendu à son statut d'immunité qui est discuté à l'Assemblée depuis sa mise en examen le 21 novembre dernier. On aura l'occasion d'en parler. Mais d'abord, Céline Ussato, votre reportage s'ouvre sur un chemin de caillasse serpentant au cœur d'un champ d'oliviers. Au bout du chemin, une source, deux bassins de pierre entourés de quelques tables, de quelques bancs. Bref, un paysage absolument paradisiaque. Cette source, elle s'appelle Ateret. Pour ce qui est de l'hébreu, En al-Zeira, pour ce qui est de l'arabe. C'est l'un des sites, Céline Ussato, qui symbolise ce retournement par lequel les Palestiniens aujourd'hui se retrouvent exclus de territoires qui leur étaient dévolus jusqu'ici.
Oui, petit à petit, on connaît les annonces successives de construction. Alors on dit tant d'unités, de bâtiments vont être construits dans telle implantation, etc. On a l'habitude de ces chiffres qui sont égrenés, contestés, etc. Et puis il existe une autre manière pour les Israéliens de prendre le contrôle de ces territoires, soit par la construction de routes, par etc. etc. Et il y a aussi petit à petit ces sources. Des sources d'eau qui sont très symboliques, puisque évidemment cela ne correspond pas à des centaines de kilomètres de mètres carrés. De toute façon, dans la région, on ne parle pas jamais en centaines de kilomètres de mètres carrés.
Ça concerne combien de sources pour qu'on ait juste une petite idée? On a une idée?
Le dernier rapport officiel, il date de 2011, donc il est un peu ancien maintenant. Il concernait une soixantaine de sources. Petit à petit, on sait qui étaient entièrement contrôlés par les populations locales, israéliennes, soit en passe d'être contrôlées. Donc aujourd'hui, on estime qu'elles le sont toutes, c'est 60, et puis que petit à petit, la situation s'étend. Il n'y a pas de chiffre réellement définitif en 2019.
Quelles conséquences très concrètement pour les populations arabes locales?
Les premières conséquences, elles sont pour les familles qui jouissaient de l'utilisation de l'eau. Donc soit pour l'irrigation de leurs terres aux alentours, soit pour l'élevage, puisque il reste en Cisjordanie beaucoup d'éleveurs, de moutons notamment, qui venaient abreuver en fait leurs moutons dans ces sources. De fait, s'ils n'ont plus accès à cette eau, ce sont des familles qui se retrouvent dans le dénuement.
Et qui sont les personnes israéliennes qui fréquentent ce lieu ? Ce sont des habitants des colonies ? Ce sont des gens qui viennent des villes ?
Principalement des habitants des colonies alentours, qui ne restent évidemment, comme tout le monde, pas cantonnés dans leur maison ou dans leur petite ville entourée de barbelés, mais qui aspirent à vivre, comme ils le disent, normalement, c'est-à-dire aller se balader dans la campagne alentour. Ah tiens, il y a une petite source ici. C'est quoi ? C'est juste un petit filet d'eau qui sort. Mais attendez, nous, on va construire des bassins. On va, comme ils le disent très bien, aménager ces endroits qui sont sauvages et dont pensent-ils, disent-ils. On ne sait pas s'ils se mentent un peu à eux-mêmes ou s'ils sont au fond sincères ou si vraiment ils cherchent à vous manipuler. En tout cas, voilà, ils disent, on a mis en beauté ce lieu, etc., etc.
Et une fois qu'on dit ça, c'est nous qui avons aménagé le site, il est parfaitement normal qu'on en jouisse. C'est en tout cas le discours que vous entendez. Quand vous y allez, il y a une atmosphère de grande quiétude, mais elle cache une réalité qui est beaucoup plus violente. Il y a très régulièrement des attaques, des attentats même.
Il y a des attentats. Alors, cette grande quiétude, elle
autour
est un
peu... Autour de ces sources, je veux dire.
Hein. Autour des sources, oui. Même elle est un peu remise en question, en réalité, parce que tout le monde dit, oui, nous, on est là pour nous détendre, on est là pour... etc. Mais en réalité, nous, j'ai travaillé avec un photographe, Olivier Fitoussi, quand on arrive sur place, on sent quand même, on n'est pas encore descendu de la voiture, on nous jauge, on nous observe, qui sait ? Une fois qu'on ouvre la portière de la voiture, qu'on descend, on sent que les gens commencent à se détendre un peu. On n'a pas l'air de méchants arabes armés, globalement. Et donc, on commence à... Donc, la quiétude, elle est aussi un peu artificielle. Et puis aussi, personne ne vient dans ces sources s'il n'y a pas de soldats israéliens qui les gardent ou si les gens ne sont pas eux-mêmes armés.
Et ils le sont quasiment tous, hein. C'est ce que vous disent les gens que vous avez croisés là-bas.
Vraiment.
Essayons de comprendre très concrètement comment ça se passe, c'est-à-dire le processus par lequel ces sources sont accaparées. On va prendre l'exemple de la source Ateret que j'évoquais. Vous rencontrerez notamment des femmes palestiniennes qui cueillent des olives justement dans leur champ et qui vont vous expliquer sur leur terrain, qui vous expliquent justement comment ça s'est passé. Racontez-nous comment cette source-là en particulier a été récupérée, colonisée.
Alors, réalité ou histoire ? Parce que c'est là aussi où on est toujours dans le doute. Est-ce que les gens disent la vérité ? En tout cas, eux pensent que les choses se passent d'une certaine manière.
Il y a quel est leur récit à elles, alors ?
Donc, leur récit, c'est qu'en fait, le terrain appartenait à un très vieux monsieur qui ne savait ni lire ni écrire. Et puis, des gens un peu habiles sont arrivés et lui ont fait une proposition de rachat de terre. Sans leur dire, évidemment, qui étaient les acheteurs de ce terrain. Car, vous comprenez bien, jamais mais ils n'auraient vendu à des Israéliens, ils l'ont roulé dans la farine, etc., etc., etc. Donc, ce récit-là, il recouvre deux choses. La première chose, c'est qu'effectivement, on sait très bien que ce genre de choses se passent. Jérusalem-Est est un exemple de cela. Beaucoup de maisons ont été achetées par des sortes de prête-noms. Qui en réalité représentaient des associations ou des individus israéliens.
Ça veut dire qu'on est dans un régime juridique où l'achat de terre dans cet territoire qui est quand même particulier, ce qu'on appelle la zone C, est possible. Et on peut l'entériner du côté de l'État hébreu.
L'achat de terre est bien évidemment possible, oui.
Il y a un autre exemple assez notable que vous décrivez dans votre papier, qui montre bien justement cette stratégie de mise à distance des populations arabes, c'est celle dans le cas de la source Ain Ania. On est près du village arabe d'Al-Walaja. C'est un lieu où on a mené des fouilles archéologiques. Visiblement, ce serait le site où aurait été baptisé l'apôtre Philippe. Et la municipalité a créé là une réserve naturelle.
Oui, c'est Emek Refaïm, la réserve naturelle. Alors là, on est dans un... Comment dire, c'est difficile de parler sans carte. Donc, au sud de Jérusalem passe donc la ligne verte, qui est cette frontière de 1967, constituée au lendemain de la guerre des Six Jours. Une frontière qui va traverser donc le territoire et couper. On va dire la région qui, séparer Israël des territoires palestiniens, pour faire court. Cette ligne, elle traverse un village, Waladjé. Première chose, comment vous expliquez ça? Je suis vraiment désolée. Donc le village de Waladjé, qui est un village palestinien,
est
coupé en deux.
L'idée générale, c'est qu'il y a des populations arabes qui ont des terrains ici et auxquels ils ne peuvent plus accéder. Vous rencontrez par exemple un agriculteur à qui on a imposé une amende, je ne sais plus de combien, 700, un peu plus de 700 shekels.
Oui, un peu moins de 100 euros.
Parce qu'il était sur son terrain en train de cultiver ses olives.
Oui, c'est très compliqué parce qu'il y a à la fois donc, le territoire de la municipalité de Jérusalem, la zone C, le territoire palestinien. Et là-dedans, on crée une réserve naturelle dont les limites sont clôturées. Donc on va bloquer le passage. La réserve naturelle, elle est très majoritairement en territoire israélien, mais elle empiète un peu sur le territoire palestinien. Et donc des fermiers de Waladjé qui, eux, ne sont pas citoyens de Jérusalem, qui sont citoyens de zone C, mais qui ont leur terre du côté de la municipalité de Jérusalem, n'ont plus le droit de venir ramasser leurs olives. Alors on dit, bien sûr que si, ils ont le droit, on ferme la réserve à personne. C'est pour des raisons sécuritaires, ils n'ont qu'à faire une demande d'autorisation. Mais les demandes d'autorisation sont systématiquement rejetées, puisqu'ils ne sont pas résidents de Jérusalem. C'est un imbroglio juridique, sécuritaire, derrière lequel les autorités des parcs et réserves naturelles, en fait, s'abritent. Les associations israéliennes de défense des droits des Palestiniens qu'on rencontre disent c'est de l'hypocrisie. Ils savent très bien que les résidents palestiniens ne pourront plus venir sur leur terre.
Et ce que vous dit justement le responsable des parcs et réserves naturelles, c'est que lui, il est là pour protéger la faune et la flore, qu'il est là pour protéger la pratique ancestrale de l'agriculture en terrasse, et que les questions politiques, ça le regarde pas d'une certaine manière. Il dépolitise la chose, alors même qu'elle est profondément politique.
Bien sûr. Tout est politique dès qu'on parle de territoire, et il le sait très bien, et voilà. Mais donc, derrière ces grands discours, on oublie tout simplement les populations qui vivent sur place et qui sont empêchées de circuler.
Céline Lussateau, il faut mettre aussi dans le décor une décision peut-être plus lointaine, mais ô combien importante, celle de Trump, qui désormais considère que ces colonies ne sont plus illégales. Ce que dit l'administration américaine, ce que dit Donald Trump, c'est qu'en réalité, il ne fait qu'entériner une position qui a été défendue par d'autres présidents, et en particulier par Ronald Reagan, qui effectivement, en février 80, quelques jours après avoir été élu, a affirmé que les colonies israéliennes n'étaient pas illégales. Reagan vraiment soutenait cette position-là? Ou est-ce qu'on oublie peut-être la fin de la proposition,
on oublie le décor? Oui, on oublie complètement le décor. À ce moment-là, Reagan vient d'arriver à la Maison Blanche, il reçoit quelques journalistes. On peut penser qu'il ne sait pas exactement de quoi il parle, et puis il va sortir cette phrase que, voilà, selon laquelle les colonies israéliennes ne seraient pas illégales en Cisjordanie. On oublie la fin de la phrase, comme vous le dites, puisque il estime que la colonisation, que ce n'est pas une raison pour poursuivre la colonisation.
C'est inutilement provocateur, dit-il.
Voilà, donc on va. C'est pas lorsque lui dit que les colonies ne sont pas illégales, ce n'est pas un prétexte à avaliser la colonisation. Bien au contraire.
Sans compter que quelques mois plus tard, il va appeler à un moratoire, justement.
Absolument.
Sur les nouvelles colonies. Un peu de politique, Céline Lussateau, politique israélienne. Le 21 novembre dernier, Benjamin Netanyahou a été mis en examen dans des affaires de corruption, de fraude, trois. L'affaire des 4000, l'affaire des 2000, l'affaire des 1000, enfin, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais en tout cas, il se trouve que depuis, il y a énormément de débats pour savoir s'il peut ou pas rester en poste. La question de son immunité est au cœur des débats au Parlement. Il pourrait avoir à quitter son poste prématurément aujourd'hui? C'est possible?
C'est compliqué. C'est assez peu envisageable. En réalité, il faudrait qu'il démissionne. Il peut bénéficier d'une immunité. On est dans une situation, il faut le rappeler peut-être pour les auditeurs, qui est très complexe. On vient d'avoir en Israël deux élections successives, à l'issue desquelles aucun gouvernement n'a pu être constitué. Encore aujourd'hui, on est sur un gouvernement intérimaire. Benjamin Netanyahou reste Premier ministre, mais intérimaire. Toutes les commissions à la Knesset, à l'Assemblée, n'ont pas été réunies. Et donc, même sa demande d'immunité, s'il décide de la faire, n'est pas sûr de pouvoir être analysée.
Parce qu'il n'y a plus de comité pour le faire.
Parce qu'il n'y a plus de comité pour le faire, du fait qu'on est dans cette période de transition. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il reste quelques jours pour tenter de former un gouvernement. Ça paraît très très peu probable. On s'achemine, on va dire, à 18% vers un troisième scrutin début mars prochain.
Pourquoi vous pensez ça? Parce qu'il y a eu ces derniers jours une rencontre entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz. Et on s'est dit, finalement, puisque ni l'un ni l'autre ne parviennent à former un gouvernement, peut-être l'hypothèse d'une alliance entre les deux permettrait de régler le problème. Ils se sont vus, ils se sont rencontrés.
Oui. Mais non, mais vous avez raison. C'est une région où on peut espérer des miracles, c'est vrai. Mais je pense qu'on est dans une sorte de jeu de dupes. En fait, tous les leaders politiques israéliens ont conscience d'une chose, c'est que si on amène la population à voter pour une troisième fois en un an, en mars prochain, les Israéliens sont tellement exaspérés de devoir en arriver encore là, et aussi parce que ça a un coût énorme sur le budget de l'État, qu'ils risquent de sanctionner celui qu'ils auront identifié comme
étant le responsable
exactement.
Du blocage.
Ouais. Et donc tout le monde y va de sa petite phrase « Ah mais non, mais moi je veux bien d'une alliance, il n'y a aucun souci vraiment, mais allons-y, formons un gouvernement d'unité nationale, etc. etc. » En réalité, Benjamin Netanyahou met comme condition d'être le premier. En fait, s'il forme un gouvernement d'unité nationale, il est question que Benjamin Netanyahou et Benny Gantz assurent l'un après l'autre la fonction de Premier ministre. Netanyahou dit « Ok, mais je serai le premier, c'est ma condition. » Et Benny Gantz dit « Hors de question, vous ne serez pas le premier parce que vous êtes sous le coup d'une inculpation et qu'il est hors de question que moi j'entre dans un gouvernement avec un premier ministre qui soit inculpé. » Et donc ce simple... on est face à deux conditions qui ne sont pas conciliables. Alors petit à petit, on a quelques renonciations, quelques petites... hier ou ce matin, je ne sais plus... on a entendu dire que Netanyahou serait prêt, certes, à être le premier, mais seulement pour 6 mois, par exemple. Mais ce n'est pas lui qui l'a dit. Donc, Benny Gantz, qui reste sur ses positions, mais ne peut pas complètement rester sur ses positions parce qu'il ne veut pas apparaître comme celui qui a fait échouer la négociation, dit, mais qu'il le dise lui-même. Pour le moment, il ne l'a pas dit lui. Donc voilà, on est dans cette petite guéguerre.
Mais alors, il y a la guerre des personnes, Benny Gantz, Netanyahou, mais il y a aussi un parti derrière. Le Likoud, en l'occurrence, de Netanyahou, est-ce qu'il soutient toujours à fond son chef de file? Est-ce qu'on sent déjà que ça commence à se craqueler? Et est-ce que finalement, au fond, c'est pas le Likoud qui pourrait sceller le sort de Netanyahou?
Alors, c'est un peu ce qu'espèrent les anti-Bibi, bien sûr. Et on a de plus en plus de signes qui vont dans ce sens-là.
Lesquels?
Alors, bon, déjà en avril, lors des primaires pour sélectionner la liste, en fait, des candidats à la députation, on avait senti que les candidats Bibi n'avaient pas eu grand succès. Donc, déjà à ce moment-là, il y avait un petit effritement, mais là surtout, Gédéon Sar, qui est le principal opposant de Netanyahou au sein du Likoud, il va de plus en plus franchement. Il a appelé à des primaires au sein du parti, ce qui n'est pas arrivé depuis 5 ans. Et puis, publiquement, aujourd'hui, il n'hésite pas à prendre position contre Bibi. Et alors, je ne vous parle pas des petites citations dans la presse de députés anonymes, bien sûr. Et celle-là.
Si, dites-nous.
Elles sont de plus en plus. Vous lisez un petit peu la presse israélienne et on sent que de plus en plus les citations de responsables anonymes du Likoud remettent en question ou appellent à des primaires, etc. Il y a un petit effritement.
Si on va vers de nouvelles élections, et c'est très très probable, parce que trouver un nouveau gouvernement d'ici mercredi prochain, ça semble très peu probable. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut en attendre aujourd'hui? Que disent les sondages? Est-ce que c'est le Likoud qui sortira à nouveau gagnant, même si c'est tout juste? Ou est-ce que Benny Gantz peut...
Honnêtement, les résultats aujourd'hui dans les sondages sont exactement les mêmes que ceux des deux précédentes élections. C'est désespérant pour les Israéliens, mais en réalité... la situation politique n'a pas changé. La seule chose qui évolue, c'est les inculpations de Benjamin Netanyahou. Donc, y aura-t-il une évolution suffisamment significative du côté de la justice pour influer sur le jeu politique? Ça reste la question aujourd'hui.
Merci beaucoup, Céline Lussato, d'être passée dans notre studio. Je rappelle qu'on peut lire, évidemment, notamment ce reportage, Les Oasis de la Discorde. Vraiment excellent reportage dans l'Obs. On peut vous retrouver également sur le site de l'Obs. Oui. Merci beaucoup d'être passée. يعملها ذكر وقت ما تشوف نجوم القمر حواليك بس عتمه المخيم من غمت السبعة وستين بالعيد بحس بالمتغرب اللي ما عنده عيد بعيد الكلمة لمشحر عن أرضه بعيد البر البلد السهل حسس بالغربة أي ما هي بتلبت فينا وإحنا من هالتربة واليوم ابن الأرض وعي بين الغربان بكرة المولود ابن الأرض بيقول الغربان ما هنش علي عشبة مطة وطنطين ومخيم ولا هن علي قمة خرسة بالعميل الدين اللي بحكي بصمة التاريخ بده مين عينه المفروض شغيل المسكين مروح ببادي جديد عشان هيك جبناك يا عبد المعيد تدعيم
ولك يعين مين؟
ليش؟
ليش
وفين؟
قال شو؟ الجيش ما عزينه
هاي مش حياة ابن البلد هاد موت مهمش مهمش ببطن الارض مكبوت هاي مش حياة ابن البلد هاد موت مهمش مهمش ببطن الارض مكبوت هاي مش حياة ابن البلد هاد موت مهمش مهمش ببطن الارض مكبوت هاي مش حياة.
Voilà, c'est avec cet excellent rap cisjordanien déniché par Benjamin Hu qu'on tourne cette page. Et d'ailleurs, on mettra la référence de ce titre absolument excellent. Tout le monde abonde ici en studio. On le mettra évidemment sur la page de Culture Monde. Désormais, c'est l'heure de discuter de l'OTAN, la réforme ou la mort.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Parce que cette semaine, l'OTAN se réunissait à Londres pour son 70e anniversaire. Les 29 pays membres se sont retrouvés dans un moment particulièrement difficile où les dissensions internes sont plus fortes que jamais, avec une Turquie que certains voudraient voir quitter l'organisation tant sa posture est ambiguë, avec un président américain dont la solidarité à l'égard des alliés européens notamment est hésitante, sans oublier évidemment la saillie du président français qui expliquait à propos de l'OTAN qu'elle était en situation de mort cérébrale, des propos qu'il a maintenus.
Je sais que ma déclaration a fait réagir beaucoup de monde. Sachez que je la maintiens. Et j'aimerais vous dire que lorsque l'on regarde ce qu'est l'OTAN et ce que cela devrait être, je peux dire que c'est avant tout un fardeau que nous partageons. Le président Trump vous a donné quelques chiffres et ces chiffres sont bien la preuve que les États-Unis ont surinvesti décennie après décennie. Ils sont, sans conteste, ceux qui ont le plus investi. Et je suis d'accord avec ce qu'il dit. C'est pourquoi je défends l'idée de voir un investissement plus fort des Européens dans l'OTAN. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire.
Voilà Emmanuel Macron qui maintient, tout en apaisant quand même la situation avec le président américain. Guillaume Lascon-Jarias et Cyril Brett sont nos invités ce matin pour parler de l'OTAN, de cette réforme nécessaire et évidemment Marc Semo, notre partenaire du Monde. Il va y avoir évidemment beaucoup de dossiers à évoquer ce matin, Marc. J'en ai parlé, la Turquie, la Russie, la Chine. Comment est-ce qu'on peut repenser cette stratégie pour garantir la sécurité de ses membres? D'abord un mot peut-être, Marc Semo, parce que avant le sommet, il y a évidemment cette sortie d'Emmanuel Macron qui fait cette déclaration à propos de l'Alliance, qui dit qu'elle est en état de mort cérébrale. Des propos qui choquent beaucoup du côté de Washington, mais aussi du côté d'Ankara, mais qui semblent avoir porté leurs fruits, puisque l'organisation a effectivement acté le fait qu'elle devait ouvrir des discussions pour son futur, pour élaborer une nouvelle stratégie. C'est une victoire diplomatique de Macron, même si le vent de la réforme soufflait déjà depuis longtemps.
Mais... Oui, alors la formule choc du président français se voulait avant tout un wake-up call, et on peut dire que le but a été atteint. le pire aurait été en effet de faire que pour ce 70e anniversaire de l'OTAN,
il se passe rien.
Tout se passe. Il ne se passe rien et que l'on parle uniquement budget organisation. Alors l'alliance en tant que telle n'est pas menacée, mais même les Turcs ne vont pas en sortir, mais le grand risque est que l'alliance effectivement continue, plus par inertie que par conviction, et par conviction sur les nouveaux défis qui se posent. Alors le pivot américain vers l'Asie, le fait qu'ils en ont assez de porter l'essentiel du fardeau, la nécessité pour l'Europe de prendre en main un certain nombre de choses. Mais le problème, c'est que la méthode d'Emmanuel Macron est pour le moins contestable, nombre d'alliés, à commencer par les Allemands, hein, notre principal partenaire en Europe, ont mis en relation les trois éléments de cette interview d'Emmanuel Macron à The Economist, qui étaient la mort cérébrale de l'OTAN, mais aussi le refus de l'élargissement vers les Balkans, à propos de la Macédoine et de l'Albanie, et la nécessité d'une nouvelle relation stratégique avec la Russie. D'où l'idée qu'il y avait quand même quelque chose qui était en train de bouger en France, hein, d'où les craintes de Berlin, de Varsovie, de Tallinn, et ce d'autant plus que Vladimir Poutine a été absolument enthousiaste des propos d'Emmanuel Macron. D'où cette crainte, alors relativisée, puisque le communiqué final de l'OTAN, il faut quand même le rappeler, continue de considérer la Russie comme la menace principale, avant même le terrorisme.
Alors voilà, le décor est maintenant bien posé. Guillaume Lasconjaria, Cyril Brett. Alors il y a peut-être plusieurs éléments. Votre regard sur la méthode Macron, la saillie avant le sommet, est-ce qu'elle vous semble avoir été bénéfique? Et puis même sur la déclaration finale même, qui est une déclaration assez brève, où on évoque plusieurs choses. Le précédent sommet, il y avait plus de 70 points, là il y en a seulement 9. Donc finalement, on a mis vraiment les grandes priorités sur la table. La Russie, la Chine, enfin on va évidemment les évoquer, mais peut-être un mot aussi sur la déclaration finale elle-même. Allez, on commence avec vous, Guillaume Lasconjarias.
Je pense qu'il y a en fait trois éléments. La première, c'est que l'interview effectivement qu'a donné Macron, il faut tout le temps la recontextualiser. Quand il a donné ses propos, on est exactement au moment où la Turquie déclenche son opération en Syrie du Nord, et en gros, ça crée cette espèce de frustration. Et il y a eu en fait une latence entre le moment où il a porté ses propos
et le moment où ça a été publié.
Donc il y a déjà eu ce cas-là, c'est-à-dire que et ça a surpris. Et le deuxième point, c'est que la méthode Macron, c'est finalement, peut-être que c'est pas le bon angle, mais finalement, c'est exactement ce qu'il reproche à Trump. Il a mis les pieds dans le plat, il a un peu secoué le cocotier, et effectivement, il y a eu un effet. C'est-à-dire que si vraiment ses propos avaient été considérés comme étant nuls et non avenus, il n'y aurait pas eu autant de bruit autour de ça. Mais finalement, il n'a fait que révéler quelque chose que derrière les portes cloisonnées à Bruxelles, tout le monde sait. Et que le monde des think tankers, le monde des politistes, le monde finalement des chercheurs a identifié depuis longtemps. Et puis le troisième point, je pense que c'est peut-être aussi ça, c'est que il y a toujours cette espèce de confusion entre l'alliance qui est l'outil diplomatique né dont on fêtait les 70 ans et puis l'organisation qui, elle, continue sa vie. Et d'ailleurs, dans l'interview, il le précise bien, ça continue à donner des résultats et à fonctionner. Et donc, par contre, cette ambiguïté, c'est est-ce qu'on peut longtemps aller cette espèce de navire qui navigue mais sans avoir aucun cap.
Cyril Brett.
Oui, ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est de changer d'angle. Jusqu'ici, on ne parlait que du budget, du partage de ce fameux fardeau qui n'est que le fardeau américain, qui estime que non seulement l'organisation et l'alliance sont obsolètes, mais qu'en plus, les Européens ont un comportement de free rider qui bénéficie du parapluie américain sans en acquitter le coût. Et ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est qu'il a changé de braquet. Il a posé avec une méthode de choc très proche d'une méthode trumpienne ou d'une méthode gaullienne aussi, la question du concept stratégique de l'OTAN. On sait que cette organisation, très ancienne, 49, s'est plusieurs fois réformée en révisant son concept stratégique. C'était une stratégie du choc, un électrochoc pour ranimer cette vieille dame et pour qu'elle prenne conscience du fait que, évidemment, les menaces ont changé, mais aussi que son fonctionnement interne, son mode de concertation et sa solidarité interne, sa cohésion interne doivent être en cause. Il est vraiment passé d'une interrogation sur les moyens, le financement, qui paye quoi, une interrogation de copropriétaire en fait, à une interrogation de véritable alliance militaire. Donc c'est un appel que certains trouveront maladroit, que je trouve médiatiquement assez réussi, puisqu'on a parlé que de ça. durant la préparation de ce sommet, à retrouver la vocation stratégique de cette organisation.
Reste à savoir quel effet ça peut avoir.
Voilà, justement, pour rebondir sur ce que dit Florian, quel effet ça peut avoir. Vous connaissez le vieil adage, quand on veut un terrain en problème, on crée une commission. Donc là, on va créer une commission. À l'origine, ça devait même être une personnalité indépendante, comme dans les années 60.
Finalement, c'est Stoltenberg qui doit
l'apporter. Ça va être Stoltenberg lui-même, qui est quand même l'homme du consensus le plus absolu, etc. Ouais. Donc, très sérieusement, on peut s'interroger, au-delà du mérite d'Emmanuel Macron d'avoir mis le pavé dans la mare, au-delà du fait d'avoir dit tout haut, ce que de fait, comme vous le disiez très bien, la plupart des think tankers, etc., pensent depuis longtemps, bah, on peut quand même s'interroger sur l'efficacité de la chose.
Guillaume,
d'autant que nos, par rapport à ce que je disais au début, que nos alliés, à commencer par les Allemands, quand même, sont de plus en plus méfiants vis-à-vis de ce comment ils voient Macron au sein de l'Alliance, et notamment avec cette idée de la nouvelle relation stratégique avec la Russie.
On peut croire à la réforme ?
Alors, je crois que l'OTAN, c'est quand même un outil qui a été capable de se réformer plusieurs fois, mais avec quand même des bases qui, à l'époque, notamment pendant la guerre froide, restaient quand même très largement piloté par l'existence d'un adversaire auquel tous croyaient. La disparition en fait d'un adversaire et le fait qu'on soit passé à faire d'une alliance contre la Russie à une alliance pour. Mais alors, le problème c'est pourquoi défendre des valeurs communes. Oui. Et encore que ces
valeurs. Comment on a réglé le problème en 91? Remettez-nous dans le contexte, parce qu'effectivement, quand disparaît l'URSS, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'OTAN? On se pose la question ou c'est le statu quo?
Non, il y a eu un moment de flottement. En 91, l'OTAN s'est réellement posé la question de savoir ce qu'elle allait faire. Et il a fallu d'ailleurs, il y a une phrase formidable en 93 qui est posée par un sénateur républicain qui s'appelle Richard Lugar et qui fait « L'OTAN doit sortir de son domaine, get out of area, donc de sa zone traditionnelle, or out of business », ou en fait finalement quitter véritablement le navire. Et d'ailleurs, quand on regarde bien, c'est un truc que la politique française fait d'ailleurs excellemment bien, en disant « Ah voilà, l'OTAN sert plus à rien depuis la dispersion de son adversaire, etc. etc. » Sauf qu'en fait, l'OTAN, c'est un outil qui n'a jamais été autant employé, sans mauvais jeu de mots, que depuis la fin de la guerre froide. Il y a eu les Balkans, pas inintéressant, il y a eu l'Afghanistan, la plus longue guerre à la fois des Américains, mais aussi de l'OTAN.
Et hors zone.
Et hors zone.
À la différence des Balkans.
Et oui, mais avec.
L'efficacité de l'intervention de l'OTAN en Afghanistan, quand même.
Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, mais de même que pour la Libye, le problème n'est pas tant, finalement, de ce que fait l'Alliance, parce que militairement, elle sait bien conduire ses opérations. C'est qu'est-ce qu'on lui donne comme mandat derrière ? C'est-à-dire, conduire une opération et assurer cette espèce de parapluie de no-fly zone au-dessus de la Libye, ça a été excellemment fait. Bon, c'est vrai que la chasse libyenne, on pourrait en parler, à mon avis, ce serait court. Mais surtout, le problème majeur, c'est que si vous n'avez pas de mandat derrière, vous faites quoi ?
Ouais. Cyril Brett, la réforme de l'OTAN, on peut y croire ou faut pas rêver ?
Alors, la réforme ne viendra pas de la commission Théodule que Marc Semo avait déjà placée sous un diagnostic pessimiste. Évidemment, Jens Stoltenberg qui préside aux destinées de l'organisation dans son versant civil, bien sûr, ne sera pas celui qui disruptera ou qui renversera la table. Mais ces 70 ans, les débats, la dramaturgie, tantôt cocasse, tantôt dramatique de ce sommet, vont déchaîner le débat public à l'intérieur de l'organisation et surtout dans son écosystème stratégique. Et c'est de ces réflexions que pourra émerger un concept. Mais l'OTAN, c'est un être nietzschéen. Ça n'est pas une définition platonicienne de soi-même par soi-même. C'est l'adversité, ce sont les missions qui vont définir l'être de l'OTAN, car c'est avant tout une alliance militaire. C'est donc face à une menace, dans une bataille, dans une guerre, qu'elle se redéfinira elle-même.
Et comment fait-on donc... quand la menace est intérieure ? Alors, je pense à la Turquie en particulier.
Alors, peut-on parler d'une menace ? Ce que je voulais dire, c'est une menace extérieure ou une menace à la sécurité ou à la défense des 29 États partis à l'organisation va nécessairement accélérer le processus de reconfiguration de logiciels. Quand la Turquie fait un cavalier seul pour défendre ce qu'elle considère à tort ou à raison comme ses intérêts nationaux, rien dans le traité de Washington ne l'empêche de le faire. Elle reste maîtresse de sa politique extérieure. Quand elle intervient dans le nord de la Syrie contre les Kurdes, elle n'enfreint aucun des articles du traité fondamental de Washington. C'est un règlement d'alliance militaire, un règlement de copropriété pas une destinée commune et elle ne doit pas, à ce titre, être confondue avec l'Union européenne ou avec d'autres organisations internationales.
Sauf que l'organisation, et en particulier les États-Unis, peuvent décider que, justement, c'est un comportement qui n'est pas acceptable. Je pense en particulier à la question de l'achat des S-400 sur laquelle il faudra revenir. Il me semble quand même qu'on n'a pas un Trump qui est particulièrement dur avec la Turquie sur ce sujet, alors même que ça constitue une véritable menace pour son système de défense.
Sur les Kurdes, il est dur. Sur les S-400, il l'est. Hein.
Pas tellement. Pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas de sanctions. Rien du tout.
Sur les S-400,
il n'y a pas de sanctions.
Je suis d'accord avec Cyril.
Il n'y a pas de sanctions.
On négocie. Mais,
on négocie quoi achetés, les S-400.
La question que pose l'offensive lancée par la Turquie contre les Kurdes, c'est beaucoup plus celui de l'éventuelle solidarité avec la Turquie si, en retour, par exemple les Syriens ou les Russes, bon là ils sont plutôt alliés avec les Russes, les Turcs, faisaient quelque chose. Mais en soi, effectivement, un pays a le droit de hiérarchiser ses priorités de défense. Ensuite, la question que moi je voudrais poser, c'est quelle est aujourd'hui la mission principale de l'Alliance et est-ce que vous pensez que, l'Alliance a raison, toujours, de mettre la Russie comme la première des menaces avant le terrorisme. Parce que c'est quand même là-dessus que c'est fait.
C'est pas hiérarchisé dans la déclaration, Maximo. Il n'y a pas de hiérarchie. Non, la Russie n'est pas plus dangereuse, plus menaçante que le terrorisme. C'est pas comme ça que c'est présenté dans la déclaration finale. Non ?
Juste un point sur
Pour l'avoir lu, vous faites non de la main. Oui ou non ?
Pour moi, je les place sur les mêmes plans. Mais sur les S-400...
C'est pas hiérarchisé dans la déclaration finale.
La réplique américaine à l'achat des S-400, la plus dure sera la moins visible. Elle sera dans la façon dont le complexe militaro-industriel américain traitera les demandes de commandes de la part de la Turquie. Mmh. La Turquie est dotée d'une base industrielle et technologique de défense, mais qui n'est pas suffisante, et notamment en matière de défense anti-aérienne. Et c'est là où le destin, non pas au sein de l'OTAN de la Turquie, mais le destin de la relation bilatérale Ankara-Washington va se jouer dans les 10 ans à venir, savoir quels vont être les équipements qui vont être acquis et que les États-Unis vont permettre à la Turquie d'acquérir. Et
si je traduis, pour l'instant, on ne fait rien parce qu'on espère qu'on va acheter des F-35, qu'on va acheter, etc.
Non. Justement pas les F-35.
Justement, ils ne vont...
Ben non.
C'est-à-dire que le problème majeur, en fait, avec les S-400, c'est pas tellement la nature même du missile que de son interopérabilité dans les systèmes. Mm-hmm. Et le problème, c'est est-ce qu'avec cette nouvelle génération de missiles, si... On fait court pour les auditeurs, c'est, vous avez un système de défense antiaérien, vous devez rentrer dans ce système de défense à peu près toutes les capacités ou toutes les connaissances que vous avez des avions qui vont voler pour éviter que ces missiles ne tirent et n'abattent vos propres avions. Donc vous allez rentrer les caractéristiques, y compris de ces avions furtifs que sont le F-35, dont on peut dire du bien ou du mal, mais là n'est pas le problème, c'est, sauf que ces S-400, on ne sait pas du tout si derrière, les logiciels n'ont pas une sorte de backdoor
On sait plutôt qu'ils l'ont.
On peut le supposer, qui en fait renvoie une partie de l'information vers Moscou. Et là, ça rend en fait la dimension beaucoup plus dangereuse, et c'est une des raisons pour lesquelles cette espèce de quiproquo, t'achètes des S-400, t'auras pas de F-35. Et ça rend effectivement les choses très intéressantes. Mais dans le système, et je partage avec Cyril cette analyse, il n'y a pas que du matériel qui vole ou qui tire qui se pose. Vous avez le renouvellement de la flotte de chars dont les Turcs ont un besoin impératif. Ils ont besoin aussi tout simplement de questions de formation et les décapitations littéralement de l'armée turque après le putsch de 2016 fait que l'armée turque aujourd'hui, elle est aussi mauvaise que l'armée rouge de 1937.
Mais sur les S-400, est-ce que Ankara va les activer? Parce que les États-Unis ont été très clairs, ils ont dit si vous activez, il y aura sanctions. Est-ce que finalement Ankara pourrait pas justement plier et ne pas activer les S-400?
Ah oui, mais alors dans ces cas-là, ils vont avoir besoin. Enfin, ils ont quand même besoin d'une panoplie de défense antiaérienne et ça.
Les Américains en ont.
Ils prendront des
Patriotes. Exactement, ils prendront des Patriotes.
Je voudrais justement poser une question sur les S-400 en renversant la chose. Parce que les S-400, donc, ils sont pas activés. Si on les active, effectivement, on se posant des problèmes. Mais apparemment, les Russes, si j'ai bien compris, ont tout aussi peur de l'intégration des S-400 dans l'histoire parce que un certain nombre de choses aussi pourraient partir de leur côté.
Mais bien sûr. En fait,
et que donc, ça va être des Russes qui vont globalement gérer les S-400 en Turquie.
C'est toujours, en fait, ce système-là. De toute façon, dans le package, il y a le côté formation et entraînement.
Surtout pour des équipements aussi sophistiqués. En tout cas, donc, ce sera une victoire technologique et symbolique. S'ils sont activés, ce sera une victoire technologique et symbolique pour la Russie, qui aura réussi à proposer à des alliés traditionnels turcs, saoudiens et indiens, le fleuron de Almazantei, qui est un des grands groupes du complexe militaro-industriel russe, et ce sera une prise de guerre qui sera assez impressionnante dans le marché international de l'armement.
Par ailleurs, les Russes avaient déjà vendu jadis des S-300 à la Grèce.
Oui.
Oui, les Russes sont très pragmatiques dans leur vente d'armes. Ils font passer d'abord les ventes et ensuite les alliances, qui est un peu la logique inverse des Américains.
Avec quand même une différence qui est intéressante, c'est que les S-300, on sait à peu près ce qu'ils valent. Les S-400, il y a une grosse incertitude. Et pour les Russes, moi je partage en fait cette question en retour, en disant, et si le S-400 est pas aussi bon que ce qu'il affirme être? Il y a tout le temps en fait cette espèce de jeu. On regarde en Syrie, hein, les S-400 ont été déployés, ils n'ont pas été utilisés. Et notamment lors des raids. Alors il y a peut-être tout un tas de discours, de jeux du chat et de la souris, et de négociations pas formelles ou pas exprimées entre la Syrie et la Russie. Mais en attendant, il reste un fait, ces systèmes d'armes, on ne sait pas ce qu'ils valent.
Alors, si je reprends à mon compte la question tout à l'heure de Marc Semo, quelle menace militaire réelle de la Russie ? Il y a effectivement Poutine qui a dit encore cette semaine qu'il était tout à fait ouvert à l'idée d'une coopération, d'un dialogue avec l'OTAN. Est-ce que c'est seulement du discours ou est-ce que réellement il y a une volonté de le faire ? Qu'en est-il du côté de l'OTAN ? Allez, Cyril Brett.
Les instances de dialogue entre OTAN et Russie existent depuis la dernière décennie. Il s'agit...
Oui, t'es un peu mis en veille ces dernières années.
Elles ont été mais réactivées. Ce qui a été un signe quand même. Elles ont été réactivées avant même que les sanctions de l'Union européenne, des États-Unis et du Japon ne soient démantelées. C'est vraiment un premier pas de dialogue. Ce qu'a fait Vladimir Poutine dans sa déclaration, c'est une double manœuvre très habile, on en a pas moins de lui, c'est de s'attribuer le rôle de celui qui est disposé au dialogue face à ce que les doctrines nationales de sécurité russes considèrent et explicitement considèrent comme la principale menace, et faire porter à l'OTAN le choix d'une posture agressive. Si on se place un instant du point de vue de Moscou, c'est l'OTAN qui a pris l'initiative de raviver la pseudo-nouvelle guerre froide en s'étendant régulièrement, 1999, Pologne, 2004, et évidemment encore récemment, et en soutenant, à demi-mot, mais en soutenant l'extension, une extension nouvelle de l'OTAN, des pays comme l'Ukraine, comme la Géorgie, sont officiellement candidate à la candidature pour pouvoir intégrer l'alliance. Pour un agonisant...
L'Ukraine et la Géorgie, ne sont pas dans le plan d'action pour l'adhésion de 1999.
Mais c'est la principale ligne de leur politique extérieure. Nous sommes prêts, nous voulons, nous sommes résolus à intégrer l'OTAN. Et donc, pour un agonisant,
l'OTAN,
c'est quand même quelqu'un...
les considère pas comme des candidats à l'intégration.
Pas comme des candidats officiels.
Ah non.
Non.
Et du fait de l'opposition de la France et de l'Allemagne.
Non, pas seulement, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un point qui, à mon avis, est essentiel là-dedans, c'est la question d'avoir résolu les disputes territoriales. Et c'est un point essentiel qui est marqué dans toutes les procédures d'accès à l'OTAN. Ces disputes territoriales doivent avoir été résolues. Donc on n'imagine pas que la question... de la Crimée ou des territoires au nord de la Géorgie soient impliqués. Mais je voudrais revenir sur ce qu'il y a en fait marqué dans cette déclaration de Londres, qui est à mon avis le minimum qu'on pouvait espérer. Et je pense que les discussions et les négociations étaient extrêmement dures pour en arriver à ce qui est en fait un article remarquablement court et remarquablement finalement creux. Creux, parce qu'on annonce quoi ? Qu'on va réfléchir encore une fois au process décisionnel peut-être, ou aller vers un nouveau concept stratégique, ce qui serait bien le moins, hein. Celui de 2010 est totalement périmé. Et puis le deuxième point, c'est mettre sur le même point quelque chose pour pas non plus frustrer les Américains, il fallait absolument évoquer la Chine. Voilà. Sauf qu'en fait, pour la plupart des Européens, cette dimension-là, elle est inexistante. Et puis d'ailleurs, est-ce que l'OTAN aura jamais un mandat pour faire quelque chose vis-à-vis de la Chine? Moi, je ne le crois pas, parce qu'en fait, ça veut dire ne pas lire tout simplement les articles de 49.
Mais justement, on va parler de cette Chine, place à notre cartooning, notre bulle du vendredi. On est en association avec Cartooning for Peace, cette association de caricaturistes du monde entier. Le vendredi, on choisit un dessin en fonction de notre actualité. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown.
Mais on a été créés pour faire rire les gens, mon vieux.
Assis.
Bonjour Hélène Lefrançois.
Bonjour Florian.
Et un dessin ce matin qui résume assez bien les querelles, les inquiétudes qui ont miné ce sommet de l'OTAN.
Oui, d'un côté de ce dessin, deux hommes se chamaillent. On reconnaît Emmanuel Macron et Donald Trump qui, on l'a vu, n'ont pas manqué d'afficher leur dissension cette semaine. Le président français s'est accaparé le chapeau de l'OTAN, reconnaissable à son emblème blanc sur fond bleu, une rose des vents entourée d'un cercle censé représenter l'unité de l'organisation. Il affronte Donald Trump, qui a enfilé un costume quasiment semblable à celui de l'oncle Sam. Les deux hommes en sont venus aux mains, mais leur bagarre, leur guerre d'égo, est interrompue par deux catcheurs qui ne sont pas sur le ring de l'OTAN, un ours russe et un panda chinois. Ces animaux emblématiques et un poil cliché de la Russie et de la Chine portent des shorts aux couleurs de leurs pays respectifs. Ils sont torse nus et exhibent leurs gros biceps et leurs tablettes de chocolat. Leur regard est dur, menaçant. Une chose est sûre, ils ne jouent pas dans la même catégorie que ces deux hommes en costard et chapeau de forme. Cette caricature, croquée par le dessinateur égyptien Sherif Arafat, date du 13 septembre 2018, mais il est encore très pertinent aujourd'hui. En effet, si les chefs d'État de ces deux pays n'étaient pas présents au sommet de l'OTAN, puisqu'ils n'en font pas partie, ils n'en étaient pas moins au cœur des discussions. Comme le souligne dans une de ses chroniques l'éditorialiste du Monde Sylvie Kaufmann, il existe une expression idiomatique anglaise qui illustre bien leur omniprésence. La Russie et la Chine sont les « elephants in the room », les éléphants dans la pièce, ceux dont on aimerait ne pas parler, mais qui sont trop gros pour qu'on les ignore, écrit Sylvie Kaufmann. À l'issue de ce sommet de Londres, vous nous en avez parlé, les 29 pays membres de l'OTAN ont adopté une déclaration commune dans laquelle ils n'ont pu que constater l'agressivité de la Russie et la montée en puissance de la Chine. Le pays asiatique détient aujourd'hui, après les États-Unis, le deuxième plus gros budget militaire au monde. Alors l'OTAN a-t-elle la carrure pour affronter ces deux mastodontes russes et chinois?
Merci beaucoup Hélène Lefrançois pour ce dessin qu'on met évidemment sur les réseaux sociaux, notamment sur le fil Twitter de Culture Monde. Cyril Brett, est-ce que l'OTAN a les capacités de s'opposer à cette montée en puissance du panda chinois? Guillaume Lascongeria, c'était un peu dubitatif tout à l'heure.
En tout cas, de l'ours russe, c'est sa vocation historique et c'est les métriques en termes de ressources militaires et financières le lui permettent. Mais ça n'est pas sa vocation historique de contrer la Chine. Et d'ailleurs, les États-Unis ne se reposent pas et ne comptent pas se reposer sur l'OTAN, principalement sur l'OTAN, pour contrer l'expansion militaire et l'expansion maritime chinoise dans la zone. Ce sera bien sur un autre réseau d'alliances qui passera par Tokyo, qui passera par Séoul, qui passera également par Taipei, que les États-Unis comptent s'appuyer dans la zone. Cette caricature est très éclairante, très bien choisie, comme toujours. Elle laisse supposer qu'il y aurait une espèce de condominium russo-chinois sur l'Eurasie, dont les Européens et les Américains feraient l'effet. C'est bien plutôt l'inverse. Les challengers ou les puissances réémergentes sur le continent sont les Chinois et les Russes, et la puissance installée, même si elle se chamaille, l'OTAN et la relation transatlantique.
Alors, peut-être justement, vous disiez que les États-Unis en fait ne comptent pas sur l'OTAN pour faire face à la montée en puissance de la Chine. Quid de l'Europe? On sait que, évidemment, on commence à prendre conscience, nous aussi, qu'il faut prendre notre destin en main, organiser cette fameuse Europe de la défense. De façon générale, Guillaume Lascongeria, comment vous jugez justement les efforts récents en la matière? Est-ce qu'il vous semble que effectivement les Européens sont sur le bon chemin et que cette Europe de la défense va pouvoir émerger enfin? Ou est-ce que le compte n'y est pas?
On part de loin. Le problème de l'Union européenne, c'est que les questions vraiment de défense ont très longtemps été vraiment marginalisées ou laissées de côté, et que cette prise de conscience, elle est relativement récente. Toutefois, il y a deux choses. D'abord, notamment dans les relations entre l'OTAN et l'UE, les choses vont quand même de mieux en mieux. On a deux déclarations conjointes qui ont été écrites et signées en 2016 et 2018, qui, en fait, s'accordaient sur le fait qu'il fallait déjà faire plus ensemble. Alors c'est parce qu'en fait, on part d'extrêmement loin. Et il y a des coopérations pratiques qui font que, au moins, des deux côtés de Bruxelles, on a tendance de moins en moins à se tourner le dos, même si ça ne veut pas dire pour autant qu'on arrive à travailler correctement ensemble. Parce qu'en fait, au sein de l'OTAN, il y a la Turquie, et que le gros problème au sein de l'Union européenne, c'est justement, là encore, l'éléphant dans la pièce, c'est les relations autour de Chypre. Et tant que cette solution-là ne sera pas discutée ou résolue, eh bien, la coopération avec l'OTAN, elle se fera toujours à bas bruit. On aura des effets d'annonce, mais il y aura une réalité qui sera un peu plus difficile à obtenir. Et puis le deuxième point, c'est que on a une nouvelle commission, on va bien voir ce que ça va donner, mais le fonds de défense européenne qui devrait normalement être conséquent, hein, c'est 13 milliards d'euros pour le prochain budget de l'Union européenne, c'est bien, mais encore faut-il qu'il soit voté dans sa totalité, et puis ensuite qu'il soit opérationnalisé. Et là encore, on est un petit peu dubitatif, parce que on l'a vu avec l'épisode Goulard-Breton, mais porté ensuite avec un commissaire qui a été initialement un peu fragilisé, ce dossier-là face aux députés européens, ça va être, à mon avis, compliqué.
Marc Semo, puis Cyril Brett. Cyril Brett, allez, Cyril Brett.
Oui, je vois deux difficultés très fortes pour réaliser ce projet finalement très français d'Europe de la défense, qui était assez évident. Nous sommes une grande puissance économique, nous avons des capacités militaires, nous devons avoir une autonomie stratégique. Le premier, il est interne à l'Union européenne. Quand vous prononcez le concept d'autonomie stratégique européenne à Riga, à Vilnius, à Varsovie, à Bucarest, soit on s'étonne, soit on s'indigne. L'autonomie stratégique européenne, ça veut dire la solitude stratégique, et la solitude à Varsovie, on la connaît. Face à la Russie, c'est la catastrophe. Et le deuxième, donc le premier obstacle à la défense européenne, c'est l'absence de cohésion en fait des Européens autour de ce slogan. Et je pense que le président Macron, qui a fait de ce projet un emblème de son mandat, devrait consacrer plus de temps au fait de convaincre à l'Est de l'Europe plutôt que de donner des leçons sur ce que nous devrions faire. On peut partager son idée. En revanche, sa stratégie en matière de promotion de la défense européenne à l'Est de l'Europe est quand même encore balbutiante. Deuxième obstacle, c'est une certaine ambivalence, certains pourraient dire double jeu, des États-Unis. Les États-Unis nous poussent, depuis une autre présidence, pas seulement celle de Trump, nous, Européens, à nous doter des moyens de notre propre défense. Et que se passe-t-il quand des appels d'offres sont émis pour l'acquisition de matériel de défense? Est-ce que les Suédois, est-ce que les Polonais, est-ce que les Roumains se dotent d'équipements européens qui engageraient un cycle vertueux du...
Pas toujours.
Bien non, pas toujours.
Regarde,
c'est quand même bien souvent. C'est quand même bien souvent des équipements anti-aériens, patriotes.
Américains.
C'est quand même bien souvent des chasseurs américains qui sont privilégiés. De sorte que on peut blâmer l'Europe pour son adolescence et son immaturité stratégique si, comme un adolescent qui essaye de s'émanciper de la coupe de ses parents, on l'empêche en fait de prendre ses initiatives, de prendre ses propres risques et de développer ses propres moyens, on peut rester dans l'ambivalence indéfiniment.
Vous avez des ados à la maison, Cyril Brett?
Non, ça se pourrait.
Alors, parce que justement, au-delà de ce que Cyril disait très bien, est-ce que le problème, le cœur, c'est pas aussi là-dessus les relations Paris-Berlin?
Tout à fait.
Parce que on a ni les mêmes conceptions en matière d'industrie de défense, notamment pour les exportations, qui sont quand même fondamentales pour rentabiliser une industrie de défense, et surtout il y a la question de la culture stratégique. C'est-à-dire, la France est la seule, pour le moment, qui a des capacités de projection et qui peut décider vite d'une intervention. Alors là-dessus, la question que je voudrais poser, c'est quelles vont être les conséquences du retrait britannique de l'Union européenne, même s'il reste évidemment dans l'OTAN, qui était finalement le seul autre pays jusqu'ici dans l'Union européenne avec lesquels on pouvait imaginer mener des opérations communes. C'est-à-dire, est-ce que là-dessus, on ne va pas rentrer dont justement un grand vide, et que l'autonomie stratégique sera de la pure rhétorique. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous, Macron ferait mieux de faire de la pédagogie plutôt que de la rhétorique là-dessus.
Guillaume Lasconjarias.
Moi, je pense que la solution, si solution il y a, c'est ce que Macron avait annoncé en septembre 2017 lors du discours de la Sorbonne, c'est cette fameuse initiative européenne d'intervention, la LEADER-Z. Mais pour l'instant, il aurait déjà fallu un an pour espérer de tricoter quelque chose autour. Il s'est passé à peu près 10 mois, entre le moment où on l'a annoncé et puis le moment où on a commencé à signer une lettre d'intention. Sauf que aucun des partenaires de cette initiative d'intervention ne veut ou ne souhaite la même chose. Donc on a une sorte de club où d'ailleurs la Grande-Bretagne est présente, sans savoir véritablement ce qu'on va y mettre. Par exemple, lors des opérations là dans les Caraïbes, les Pays-Bas, qui font partie de cette initiative, ont dit « Ah, ce serait bien de faire de ce qu'on appelle de l'aide aux populations en difficulté, du « humanitarian aid, disaster relief », sauf que c'est pas du tout ce qui était dans le package initial qui était proposé. Donc là encore, ça tire un peu à U et à Dia, et ça explique aussi pourquoi, dans ces cas-là, quand on en a finalement assez, on se retourne vers ce qui marche, à savoir, l'OTAN.
Cyril Brett.
Oui, avec le Brexit, Marc Sémo a raison de le souligner, la France va être particulièrement isolée dans la promotion d'un esprit de défense européen. La question des capacités, bien sûr, mais la question également de la culture martiale et de la culture stratégique. Ce n'est pas un hasard, d'ailleurs, que ce soit deux anciennes puissances coloniales ayant subi et ayant combattu dans des guerres de décolonisation. C'est là où il y a une matrice de projection des forces à l'étranger qui s'est forgée et qui, graduellement, au fil des OPEX, au fil des opérations de maintien de la paix, au fil des différentes coalitions, a forgé une culture martiale qui a fait que les capacités dont la France et le Royaume-Uni disposent sont utilisées dans un sens que aucun des autres alliés, pour le moment, n'est capable de faire. De sorte que c'est le risque de l'isolement et également le risque d'un réalignement allemand de la République de Bonn qui peut se manifester. C'est-à-dire que les alliés qui restent seuls de l'Union européenne dans l'OTAN considéreront simplement que leur armée, leur capacité et leur culture ne sont qu'au service de l'Alliance. D'ailleurs, quand on lit les différents livres blancs de la défense, de la Pologne, des Pays-Bas, de l'Allemagne, c'est très frappant. On voit qu'ils conçoivent leurs forces armées comme une contribution, et principalement une contribution, voire seulement une contribution, à la vie de l'OTAN. Toute perspective d'autonomie stratégique, de décision, de renseignement ou d'action étant écartée.
Marc Sémo.
Oui, alors juste sur ce point-là, qu'en est-il de la dissuasion française ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer d'une manière ou d'une autre, alors qu'il y a ce retrait américain, donc la question risque de se poser, est-ce que les Américains iront jusqu'au bout en matière de protection de l'Europe ? Qu'en est-il de la dissuasion française ? Est-ce qu'on peut imaginer d'une manière ou d'une autre, à la fois la partager, ce serait plus une dissuasion, et en même temps, est-ce que quelque part, malgré tout, ça peut servir à affirmer un pôle de défense européen.
Guillaume Lasconjarias.
Je vais botter en touche.
Elephant in the room.
Oui, mais un autre. En réalité, je pense que la réponse, elle sera en partie apportée par Macron lui-même dans ce grand discours qu'il était d'ailleurs censé prononcer il y a déjà quelques jours, en théorie, à mon avis, ça va encore être décalé, sur justement sa conception de la dissuasion nucléaire. Et il ne l'a pas fait. Donc on ne sait pas véritablement comment il va se positionner. Est-ce que ce sera à nouveau une rupture ? Point d'interrogation.
Cyril Brett, 20 secondes.
Oui, la dissuasion nucléaire française va être réduite au sanctuaire national dans la conjoncture actuelle. Je ne vois pas comment il pourrait l'étendre. Mais j'attends évidemment, comme vous le dites, ce discours avec beaucoup d'impatience.
Invested in thee, I'm the objector of the land of the free. I pledge allegiance to a man of United States of America, and to the suffering on which he stands, one man, by God, and an individual.
À la
c'était avec cette chanson intitulée Trump d'une chanteuse américaine Cindy Lee Berry Hill, dans laquelle elle se moquait très légèrement, c'était en 1989, de Donald Trump, vous voyez déjà à l'époque. Hein, merci beaucoup Guillaume Lasconjaria, Cyril Brett, Marc Semo d'avoir été avec nous ce matin. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et la Grande Table.
France Culture, l'esprit d'ouverture.